Vous êtes sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Premier journaliste de France à écrire les infos avec des moufles, ce qui est une performance quand même.
C'est pour ça que c'est pas du tout.
Jean-Michel, il est dans le thème.
Complètement dans le thème, effectivement. Puisqu'on part pour les Hautes-Pyrénées, on va rejoindre la route des coureurs du Tour aujourd'hui. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans RTL vous régale jusqu'à midi et demi sur les routes de France, à la découverte de nos terroirs et de la cuisine française. Il y aura des producteurs, il y aura des restaurateurs. On va vous faire voyager, on va vous raconter des histoires comme tous les jours dans ces paysages somptueux de l'Hexagone. Dieu que la France est belle. Avec moi, autour de cette table, pour en parler. Dans cette petite combinaison. Non, mais parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est vêtements. Tout le monde est en grande tenue.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
Je sais pas. C'est une petite combinaison, bon, pas forcément estivale d'ailleurs.
Non, j'ai prise verte sapin.
Ouais, exactement.
On va appeler la montagne.
Bah, tant qu'on n'a pas l'odeur du sapin, ça va. C'est Louise Petit-Renaud qui nous a rejoint. Bonjour,
bonjour
Louise.
Bonjour à tous.
Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour.
Tout en lin.
Toujours.
Légèreté absolue, l'été. Élégance du geste.
Mais oui, mais il peut faire 12 degrés, c'est l'été. Hein,
J'en sais justement un mot sur le terroir du jour. On part sur une terre mythique.
Si je vous dis pic du Midi de Bigorre, 2877 mètres, vous allez mettre l'écharpe de Stéphane Genest.
Je vais surtout aller chercher
mon... Si je dis col du Tourmalet.
Chercher mon vélo.
Oui, bien sûr. Si je dis la Mongie.
Oh, j'adore.
Lourdes.
Le cirque de Gavarnie.
Le cirque de Gavarnie. Vous savez que nous sommes dans le massif pyrénéen. Si j'ajoute à la liste Tarbes et Bagnères de Bigorre, vous voyez se dessiner effectivement le département des Hautes-Pyrénées. Et Hautes-Pyrénées parce que Pigorre.
Voilà.
Exactement. Mais ça fait encore partie de ces choses étonnantes de la révolution, de l'arbitraire administratif de 1790. Le comté de Bigorre, qui existait depuis 840, a été agrandi avec quelques bouts d'Armagnac, de Comminges et du Gers. Et c'est devenu le département des Hautes-Pyrénées, avec la montagne lourde, mince, percée par des vallées profondes qui chacune formèrent un monde clos pendant des siècles. La Bigorre, c'est un lieu où il y a autant à voir qu'à manger, du mouton de Barège-Gavarnie ou haricot tarbé. On mange riche, on mange bien, on mange large.
J'adore cette formule, on mange large.
Ouais.
Ça veut tout dire.
Et nous avons tout aujourd'hui pour nous réveiller les papilles.
Et Louise, le produit dont vous allez nous parler est un produit fantastique, à un point tel que ça peut nous faire chialer de bonheur.
Oh, eh bien non, parce que cet oignon ne fait pas pleurer, figurez-vous.
Il pique pas celui-là.
Mais oui, je vais vous parler de l'oignon doux de Trébons. C'est un petit oignon frais, tout mignon, tout joli, qui est cultivé donc là-bas, à Trébons. On est sur un territoire unique qu'on appelle la Bigorre. C'est une région qui est nichée entre les Pyrénées et le Val d'Adour. Alors c'est un oignon qui a des caractéristiques étonnantes, parce qu'il a une saveur douce et sucrée. Donc c'est pas l'oignon qu'on a l'habitude de goûter. Il se consomme frais de mai à juillet, puis sec d'août à septembre. Et la bonne nouvelle, c'est que premièrement, il ne fait pas pleurer. Ou du moins très peu.
Mais qu'il est facile à digérer.
Donc il est très sympathique. Mmh. Et qu'il est facile à digérer. Ça fait partie de sa particularité.
Très bien.
Donc
l'oignon,
on va pas s'en priver.
Il y a une autre particularité.
Attention.
C'est qu'il est très bon.
11h07, je le note. Première grosse sortie de Jean-Sébastien. C'est RTL vous régale avec une playlist à la hauteur aujourd'hui avec Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Ajoutez-y Billy Preston. 1975. Et puis Véronique Sanson aussi de la partie. Et enfin, allez, je replace la mèche derrière l'oreille droite et on arrive pour les évidences de toute une région. C'est RTL Boréal, c'est jusqu'à midi et demi. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. Merci d'être avec nous.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et avec Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud, on va vous emmener dans les Hautes-Pyrénées. Ça va être une très jolie promenade parce qu'il y a des choses absolument exceptionnelles à rapporter de là-bas. On va évoquer des produits qui ne le sont pas moins. Ce haricot, on en a parlé il y a quelques instants, c'est le fameux haricot tarbé.
Oui. Hein. Et ce qui est bien avec tous ces produits, c'est qu'on peut faire un plat complet. Ouais. Tout ce, on peut mettre l'oignon avec le haricot. Après, je vais vous parler d'une volaille. On peut tout faire dans le, en même temps. Le haricot tarbé, c'est un haricot blanc sec. C'est le premier haricot blanc à avoir obtenu une IGP, indication géographique protégée, et un label rouge, donc forcément gage de qualité. Il peut être produit uniquement sur ce territoire, ouais, bien précis, parce en que... fonction d'un cahier des charges établi. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire du haricot tarbé
à Lille. C'est parce que de toute façon, s'il vient du Nord, on l'appelle le ch'tarbé.
Oh, oh là là. Alors là, c'est 11h11. Hein, après, on est bien lancé. Il trouve son origine parmi les premiers produits importés des pays d'Amérique du Sud au XVIe siècle dans les cales de Christophe Colomb. Donc ça remonte. Il est de grande taille. Il a une peau filante. C'est sa particularité. Il a une peau qui est filante et fine. Il est très bon pour la santé parce qu'il est riche en protéines, en fer. Il procure une sensation de satiété. Donc c'est très bien si vous êtes un petit peu au régime parce que ça vous cale tout de suite.
Et ça vous cale un haricot tarbé. On se rend pas compte. C'est bon pour la santé,
oui,
c'est vrai.
Comme il vient des cales de Christophe Colomb.
On le rappelle encore une fois, les légumineuses font partie des produits importants d'une alimentation équilibrée. Il n'y a pas que du haricot.
Longue conservation.
En plus,
c'est aussi pratique.
Louise, vous l'avez dit, il y a de la volaille dans le coin et pas n'importe laquelle.
La volaille noire d'Astarac Bigorre. Alors, elle doit sa notoriété depuis bien longtemps parce qu'elle est originaire du Sud-Ouest. Et cette poule gasconne n'est rien moins que la célèbre poule au pot du roi
c'est
Henri
la fameuse.
IV. Mais oui, c'est elle. Donc c'est vraiment une référence. Elle a un plumage noir, elle a une crête simple, des petites pattes courtes. C'est la reine des basses-cours de Gascogne. Elle est, on dit que c'est une poule d'exception. Elle fait des très bons œufs. Elle est bien grosse, elle est bien charnue. On aime la cuisiner.
Dans les recettes traditionnelles des Hautes-Pyrénées, Jean-Sébastien, on trouve
l'ail cuit.
Explication.
On en a parlé dans son origine avec l'aligot qui venait de ça. Alors ça n'a strictement rien à voir avec l'aligot, vous allez voir, parce que dans les Hautes-Pyrénées, c'est un ragoût d'abattis de volaille. Cet ail cuit, qu'on appelait également aligot, c'est un ragoût qui est préparé dans les fermes traditionnellement depuis des siècles. C'est un plat savoureux. Vous allez voir que ça tient au corps. Pourquoi ail cuit? Parce qu'on met aligot, ça veut dire en gascon, les ailes et les coups. La recette, pour la préparer, on a les aiguillettes et les cuisses, c'est les parties nobles, ou les magrets si c'est un canard gras. Et puis, on mettait dans cet ail cuit les têtes, les pattes, les abattis, les manchons, les coups, les ailerons, les gésiers, le cœur, tout ça est cuisiné avec des carottes, du vin blanc, un bouillon de légumes. Il vaut mieux prévoir les serviettes pour le manger parce que on y met forcément les mains à un moment ou à un autre.
Puis c'est bien, on peut les faire tourner après parce que de toute
Absolument.
Façon.
Et puis je peux vous
c'est
dire
un plat de fête.
Avec des pâtes fraîches aujourd'hui, avec quelques pommes de terre juste cuites à l'eau, c'est un bonheur absolu. C'est un plat de dimanche d'hiver qui permet de passer un déjeuner absolument magnifique. Et puis il y a une autre spécialité que j'aime beaucoup, c'est le massacanat de Bigorre. C'est une omelette géante préparée et garnie de viande de veau en dés sautée à la graisse de canard avec des oignons de trébons et du persil.
C'est parti.
Et une petite salade verte à côté.
Vous imaginez la petite omelette comme ça, tranquille. Non, vous mettez juste un peu de persil pour faire la verdure. Pas besoin de salade, ça rend malade.
Le fameux persil bonne conscience.
Omelette veau, graisse de canard. Voilà.
Bon, je vais avoir du mal derrière tout ça à annoncer le menu en ce qui me concerne, parce que MacBook, iPhone 12 Pro, chèque de 1000 euros, week-end de Thalasso pour se remettre en forme, des semaines en vacances en famille chez VVF également. Rendez-vous tout à l'heure à 11h55, ça s'appelle le grand jeu RTL de l'été. Vous allez tenter de gagner ce matin un chèque de 1000 euros ou un iPhone 12 Pro. Quoi qu'il arrive, vous partirez avec un super cadeau. Inscrivez-vous dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute, ou envoyez RTL par SMS au 74 975 centimes d'euros par SMS. Can't stop the feeling, voici Justin sur RTL. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, we're never. The Feeling, Justin Timberlake sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées aujourd'hui dans RTL vous régale jusqu'à midi et demi et c'est l'heure du petit tour de Jean Seb. On va aller faire un tour dans un endroit qui évoque pour moi un souvenir d'enfance incroyable. Je me souviens, ouais. Alors, tout le monde s'en moque, mais
non,
c'est important pour moi. C'est important pour moi de témoigner.
C'est important pour nous. Ça veut dire beaucoup.
Je suis monté sur un cheval pour la première fois dans le cirque de Gavarnie avec mes parents. Je devais avoir 5 ans. C'est un souvenir immense pour moi.
Et depuis, vous n'avez plus jamais refait de cheval.
Comme vous le constatez sur ces images, je ne suis pas un cavalier émérite.
C'est vrai qu'on peut se balader, on peut faire la randonnée. Si on ne la fait pas à pied, on peut la faire à cheval. C'est assez impressionnant de se retrouver dans cet endroit qui est un des plus incroyables au monde, le cirque de Gavarnie. Vous imaginez le tableau ? Un site de 5 500 km de diamètre avec des parois de 1500 mètres de haut. Un peu partout, il y a des cascades, dont la plus haute d'Europe. Vous avez également dans la carte postale 16 sommets de plus de 3000 mètres tout autour. Tout cela qui forme une des merveilles de la nature qui a été façonnée au fil des millénaires par le vent, par l'eau, par le temps. Tout cela s'est uni pour créer ces torrents, pour créer ces glaciers l'hiver. Tout ça a usé les couches de calcaire coincé dans un environnement de granit. C'est ce qui fait le cirque de Gavarnie et ça a découpé un paysage avec ses falaises immenses, ses gradins inclinés à 30 degrés. Tout ça, c'est totalement grandiose. Et encore une fois, Victor Hugo en a fait une promotion plus qu'efficace.
Victor Hugo a dit
« Une muraille ». Elle est prodigieuse. Ce haut boulevard monte, altier, froid, surprenant, et d'une mer à l'autre, barre le continent.
Merci Victor.
Bon, Hugo voyait tout en grand. Mais enfin, en attendant, c'est lui qui a fait quand même de Gavarnie un lieu absolument incroyable. Et tout le monde du 19e siècle est venu voir le cirque de Gavarnie. Il faut dire qu'on venait prendre les eaux à Cotteret. Hugo était venu avec Juliette Drouet, dont il était fou amoureux. Et puis, dans la vallée voisine, il y a le cirque de Troumouze. Troumouze est également inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Mais Victor Hugo n'est pas allé le voir. Donc, il n'en a pas fait la promo. Et pourtant, ce site a sans doute plus de poésie, plus de relief, à mon sens. Alors, là encore, c'est le résultat de millions d'années d'histoire, mais du coup, cet amphithéâtre est incroyable. Il apparaît comme ça, creusé par les glaciers. Et lorsqu'on se balade, on est accompagné par le chant des oiseaux omniprésents qui donne aussi à apprécier cette nature de rêve. C'est un festival de pipites pioncelles, de trachémoteux, qui sont des oiseaux qu'on trouve là-bas. Et ils se partagent la vedette avec quelques vautours fauves qui tournent comme ça autour de leur vol qui peut être inquiétant, mais qui est tellement beau. Il faudrait également regarder par terre pour repérer des gentianes bleues, aussi bleues que les chardons. Et il y a comme ça piqueté quelques renoncules blanches. Ça fait partie de ces endroits pour lesquels j'ai beaucoup d'affect également, oui. Même si je n'y suis pas allé
à cheval. tout le monde n'est pas cavalier, monsieur.
Je vous le confirme.
Et là-bas,
enfin,
entre...
pas là-bas.
Et là-bas, entre le col de l'Obisque et le Tourmalet, on est à 600 mètres d'altitude,
oui.
Il y a le Viscose.
Ben oui.
Et au Viscose, il y a un chef. Et ce chef, c'est Jean-Pierre Saint-Martin qui est avec nous dans RTL Voyage. Bonjour Jean-Pierre, bonjour chef.
Oui, bonjour, bonjour. Quelle belle évocation sur Gavarnie.
Bon, merci. Il a raison Jean-Seb, vous partagez cet avis, j'espère.
Mais bien sûr. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une recette à l'escoffier qui est truite à la Gavarnie.
C'est quoi comme recette?
C'est une recette avec une tombée d'oignons, du jurançon et une réduction.
D'accord.
Voilà, intéressant.
C'est bien, c'est intéressant. Il y a de la truite au restaurant Viscose en ce moment ou pas?
Oui, il y a de la truite. En ce moment, il y a une séviche de truite avec des oignons de Trébons. Ouais. Qui, dans un pays de rugby, ne gâche rien. C'est un oignon qui a la forme d'un ballon de rugby et qui est très doux, très très doux.
Et facile à digérer.
Voilà, facile à digérer et qui accompagne très très bien des préparations, même, disons, une... belle pièce de bœuf avec une tombée d'oignon déglacée avec un peu de jurançon sec, pourquoi pas.
C'est joli ça. Jean-Pierre Saint-Martin, je ne vais pas vous mentir, quand on a évoqué l'idée d'aller dans les Hautes-Pyrénées dans cette émission, Louise, lors de cette réunion, nous a dit stop. Elle a ouvert son carnet d'adresses, épais comme un annuaire téléphonique, pour ceux qui s'en souviennent. Et elle a dit, on va appeler le Viscose, on va chez mon ami Jean-Pierre Saint-Martin.
C'est sympathique, et puis de toute façon, c'est une vieille complicité, une vieille histoire.
Mais il fait peur, hein.
La famille Petit Renaud et moi-même.
Mais oui, bon, c'est mon Jean-Pierre, je l'adore.
C'est vraiment, je suis très très heureux de ce moment, et puis non content de ça, elle a vécu depuis sa plus tendre enfance les réalités de la table, et vous savez bien que la table, ça évoque aussi une recette, un menu, un livre de cuisine, n'a rien à envier. Un traité de civilisation, mais on peut expliquer beaucoup de choses sur le savoir et sur le comportement humain autour de la table et sur les épicuriens et tout ce qui est gastronome.
Vous avez mille fois raison.
Alors ce qu'il faut savoir, Jean-Pierre, c'est quand je viens chez toi le matin à 8h pour prendre le café, Jean-Pierre me fait des œufs au plat avec une tranche de jambon noir de Bigorre. Donc vous voilà, avez ce gras de jambon qui fond sur les œufs et je peux vous dire que je peux pleurer moi à chaque fois.
Ah oui, oui, ça, ou alors la ventresse de noir aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un port emblématique de la région qui a été réimplanté, qui allait disparaître, qui est un port qui est élevé avec un cahier des charges très strict sur une surface arborée de vaste, avec arborée de chênes, de châtaigniers, et surtout cyprès. Très, très belle viande. Et nous avons toujours, c'est un peu les plats emblématiques, le carré de noir de Bigorre, oignon de Trébons, avec des macaronis farcis avec une duxelle de cèpe et truffe.
Alors, ça c'est bon. Avec un petit jus, petite réduction.
Voilà, un petit jus réduit. Oui.
On ira faire un tour chez Jean-Michel Coustala, la maison Coustala qui produit du porc noir de Bigorre. Tout à l'heure, j'imagine que vous connaissez,
oui,
Jean-Pierre.
Très, très bien. Très, très bien.
Comment est-ce qu'on peut résumer la cuisine du Viscose? J'aime pas le terme, résumer, parce que c'est réducteur, mais...
Disons que c'est un établissement où c'est la 7e génération, puisque ça existe depuis 1840. Et mes fils ont pris la suite, en particulier Alexis en cuisine, qui a un très très beau parcours. qui a fait dans le palais, qui a fait ensuite la chèvre d'or avec de la cour, ensuite le Juana, Maurice et Ducasse. Et ensuite
c'est une cuisine de terroir revisitée, un peu modernisée.
Voilà. Avec 5 ans chez la serre avec Nomi Grosse.
Jean-Pierre, je vous interromps parce qu'on doit vite être pris par le temps, mais faites-nous rêver un instant. Ce midi, à la carte du Viscose, qu'est-ce qu'on trouve ?
Ben, en ce moment, il y a un plat emblématique qui est le tastou à la truffe, le foie épaulé tapissé de truffe. Ensuite, ce carré dont j'ai parlé, ça peut commencer par une ceviche. Ensuite, il y a une préparation emblématique aussi qui est un œuf cocotte au cèpe. Il y a des cèpes en ce moment, cèpes et foie gras. Et ensuite, donc aussi, dessert important de la finalité sur le dessert, baba au rhum à l'ancienne.
Ça, c'est pour ce midi.
Et après, on remonte le tour du tourmalet.
Mais pour le maillot à pois, ça va être compliqué. Hein, je vous le dis franchement, on n'est pas dans les points.
C'est clair. Souvent, je dis à mes clients, quand ils partent le matin de bonne heure pour le tourmalet ou l'obisque, j'espère que dans les pentes de Tourmalet et de l'Obisque, vous vous souviendrez de moi, parce qu'on leur a fait toujours quelques sucres lents, quand même, hein, des macaronis, mais avec de la truffe et une cuisson de cèpe. C'est quand même pas l'idéal pour pédaler.
Quoi. Non, voilà. Et en plus, on imagine ce que vous mettez dans le bidon, donc forcément, ça va être compliqué.
Oui.
Jean-Pierre Saint-Martin.
On a pas besoin du poubel, j'aime beaucoup d'Armagnac. C'est bon.
Le Viscose, c'est la 7e génération. C'est une entreprise familiale depuis 1840. Et c'est au cœur de ce typique village pyrénéen de Saint-Savin, réputé pour son abbatial, son village très calme. On vous embrasse, Jean-Pierre.
Merci, Jean-Pierre, un très bel été.
On
embrasse tout le monde.
Allez, au revoir et merci beaucoup.
Bonne journée à vous. Dans un instant, les petits challenges de Louise Petit-Renault. Vous écoutez RTL, il est 11h30, à tout de suite.
RTL vous régale. 11h-12h30.
RTL vous régale.
Là, on ne joue plus.
Elle élève les conseils et les astuces du quotidien au rang de discipline olympique. C'est un challenge quotidien pour Louise Petit-Renault. Dans RTL vous régale, elle répond chaque jour à vos questions. Vous avez besoin d'astuces, de conseils, d'idées, de recettes, etc. Vous allez voir, démonstration, Hélène est en handaï. Elle nous a envoyé ce petit SMS, elle nous dit « Comment garder des soufflets bien aérés ? J'adore ça, mais parfois je les loupe. »
Ben oui, en plus, merci Hélène de poser la question parce que je sais que Jean-Michel est très friand de soufflets.
J'adore ça, d'ailleurs Jean-Sep nous en a promis un avant la fin de cet
été. Alors Hélène, ce que vous avez fait, c'est après avoir battu vos blancs d'œufs en neige, une fois qu'ils sont bien fermes, vous ajoutez une cuillère à café de fécule de maïs, vous savez, le petit sachet rose là, qu'on a dans la cuisine, et ça vous permettra de garder vos soufflets bien moelleux
sans
et aérés.
Sans altérer le goût du soufflet.
Exactement.
Sylvain a très lasé, chez nous le dimanche midi, c'est poulet frites maison. Mais comment faire disparaître les odeurs de friture? C'est vrai que c'est tenace.
Ouais, mais qu'est-ce que c'est bon, un bon poulet frites avec un bon jus. Alors vous allez prendre une casserole, Sylvain, et vous allez mettre de l'eau, et dedans vous allez mettre des clous de girofle et faire bouillir. Et vous allez voir, c'est magique, il n'y a plus cette odeur de friture qui nous colle aux vêtements.
On est dans la chasse aux...
Oui, pardon. L'impression d'être chez le dentiste.
Absolument. Dites-moi, on est dans les odeurs. Moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est le cas de Stéphanie à Mâcon. Si vous savez, quand vous coupez de l'ail, généralement, c'est sur le bout des doigts, c'est tellement tenace. Vous avez beau vous savonner les mains, etc., ça, c'est compliqué à faire disparaître.
C'est des gants.
Et c'est Stéphanie à Mâcon qui nous pose la question. Vrai. Et là, je sais que vous m'avez posé la question aussi plusieurs fois. On sent que c'est un problème que vous avez.
Ah mais complètement, hein, et j'attends de vous que vous me proposiez une solution définitive.
J'ai testé une astuce qui fonctionne. Vous vous savonnez les mains en gardant une cuillère en inox dans vos mains. Alors, vous avez l'air un petit peu... Bah, vous avez une cuillère.
Vous savonnez les mains avec...
Comme ça, là. Comme
et vous frottez la cuillère...
Voilà, comme ça, l'inox de la cuillère va être attiré par l'odeur de l'ail. Ça fonctionne. Essayez.
Vous l'avez testé?
Oui.
Je voudrais quand même m'adresser à Stéphanie qui est à Mâcon. Donc Stéphanie, je voudrais que vous testiez, rappelez-nous pour nous dire si ça fonctionne.
Si ça
parce
fonctionne,
que
j'ai essayé.
Je soupçonne quand même Louise sur ce coup-là. Deux.
Non.
Ça fonctionne vraiment?
Oui, je vous dis que ça fonctionne.
Vous lancez des challenges à Louise tous les jours, vous envoyez par SMS le mot régal suivi de votre message au 64 900. C'est pas le truc le plus pratique de se frotter les mains avec une cuillère en inox, mais bon. Dans un instant, l'ambassadeur d'RTL vous régale, s'appelle Vincent Gilcot, il est guide de montagne. Et il est avec nous juste après, Billy Preston. Nothing from nothing. C'est RTL vous régale, chaque jour de l'été, 11h, 12h30. Soyez les bienvenus. We'll be right back. 1975, Nothing from Nothing. Billy Preston avant de filer à la montagne dans les Hautes-Pyrénées avec un guide professionnel dans un instant dans RTL vous régale.
Restez bien avec nous. RTL vous régale revient tout de suite. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et l'ambassadeur d'RTL vous régale ce matin, je vous en parlais, est guide de montagne. Il est en ligne avec nous, Vincent Gilcot. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Bienvenue sur RTL. Et avant toute chose, Vincent, laissez-nous vous souhaiter un très joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Merci, beaucoup.
Vous les faites pas, hein, parce que la montagne, ça conserve.
Tout à fait, l'air frais, ça conserve, oui, surtout en ce moment.
Et tout le monde n'a pas la chance de fêter son anniversaire dans la vallée des Gaves. Vous êtes à Cauterets, au cœur du parc national des Pyrénées. C'est le cirque glaciaire de Gavarnie, c'est ça, hein ?
On n'est pas très loin du cirque glaciaire de Gavarnie, qui est un des grands attraits de nos montagnes, tout à fait. Avec un trou dans la montagne creusé par un ancien glacier qui était présent il y a quelques milliers d'années.
Voilà, on est à la frontière de l'Espagne et de l'Aragon. Un mot sur Cauterets, où vous êtes. C'est un village perché au cœur de la montagne. C'est une station thermale aussi, Cauterets, non ?
À Cauterets, on est à 850 mètres d'altitude. C'est une station thermale donc, qui bénéficie d'eau chaude, sulfurée, sodique, dont les gens profite des vertus depuis des centaines d'années. Et l'hiver, c'est une station de ski. Et un charmant village, puisqu'il y a une architecture, de la fin du 19e siècle qui rappelle les heures glorieuses de la grande aristocratie qui venait prendre les eaux à Cauterets, comme il venait d'ailleurs dans tous les Pyrénées et dans toutes les stations thermales des Pyrénées.
Je disais que la montagne, ça conserve, parce qu'on y fait pas mal de sport aussi. C'est vrai qu'il y a tout un tas d'activités qu'on peut pratiquer du côté de chez vous, de l'escalade, de la rando, de l'alpinisme. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein.
Mais oui, tous ces espaces peuvent être et doivent être parcourus pour être appréciés. Et d'une multitude de façons, ça peut être à pied, en allant chercher les sommets les plus hauts, en alpinisme. Par exemple, on a le Vignemale qui culmine à 3298 mètres. On est à la frontière entre la France et l'Espagne. Il s'agit là de franchir un glacier avec des crampons aux pieds, hein, pour aller chercher ce petit sommet, où on peut plus modestement apprécier les charmes d'une montagne boisée sous les hêtres et les sapins, aller observer les marmottes, et puis avec un guide évidemment pour en apprendre un peu plus sur leur vie en montagne.
Il n'y a pas que des marmottes par chez vous, hein, il y a des ours si on a de la chance, enfin c'est relatif quand je dis ça.
Oui, alors il faut effectivement se lever très tôt et parcourir la montagne longtemps avant d'apercevoir un ours, mais aujourd'hui il reste une soixantaine d'ours dans les Pyrénées, tout à fait. Et
vous en voyez de temps en temps vous-même ?
Il m'est arrivé de croiser l'empreinte de l'ours, mais rarement d'en voir, parce qu'il préfère éviter la présence de l'homme, et a raison.
Ce qui explique que vous soyez là pour nous en parler d'ailleurs aujourd'hui.
Mais oui, tout à fait. Alors l'ours a été réintroduit dans les Pyrénées. Hein, il y a quelques années, il en restait très très peu. Et il a été réintroduit à la faveur d'une législation européenne pour la préservation de la biodiversité.
C'est pas encore aujourd'hui qu'on aura retrouvé l'homme qui a vu l'ours, parce que vous n'avez vu que l'empreinte.
Je n'ai vu que l'empreinte, je suis désolé.
Où est-ce que vous nous conseillez d'aller déjeuner ou dîner dans le coin ? Parce que vous savez, nous, c'est notre obsession. Hein.
Oui, eh bien, j'ai pensé à deux endroits. Sur Cauterets, l'Abri du Banquès, qui est un restaurant gastronomique, mais qui va retravailler des recettes traditionnelles du pays. Vous pourrez y goûter l'agneau de Barège-Gavarnie, qui est une appellation, des brebis, des moutons qui ont pâturé les herbes des estives. Hein. Dans les Alpes, on parlerait d'alpage, ici on parle d'estives. Donc c'est de l'agneau qui a du goût. Et qui révèle toutes ses saveurs quand il est bien préparé. Et l'Abri du Banquès qui est à Cauterets, donc. Hein, il ne faut pas se tromper d'adresse.
On est d'accord.
Ou alors vous rendre dans une de ces petites auberges typiques traditionnelles, quelquefois perchées en montagne. Je pensais à l'auberge de l'Ariutou.
Est-ce qu'on y trouve de la garbure ?
Ah ben oui. Alors voilà. c'est le plat traditionnel. La garbure qui est une soupe paysanne ancienne, avec agrémenté aujourd'hui pour devenir plus riche d'un manchon de canard, d'un talon de jambon, et on va y trouver du chou, on va y trouver des haricots tardés, vous savez, c'est des...
On en parlait tout à l'heure, bien sûr. Oui.
Tout à fait, des haricots un peu gros, et surtout cuisiner à la graisse d'oie. C'est une graisse qui n'est pas grasse, vous voyez l'idée ?
Mmh, on voit bien l'idée, ouais.
Ça tient bien au corps, tout ça. Hein.
Ça tient bien au corps. Alors, c'est préférable, évidemment, en hiver, quand il fait un peu frais. Mais on peut manger une garbure un peu plus allégée en été. Après une belle journée passée en montagne, ça régénère le bonhomme.
Vincent, juste pour terminer, vous savez, il y a toujours deux salles, deux ambiances entre ceux qui sont pour les plages de l'Ouest, ceux qui sont pour les plages du Sud-Est. C'est pareil pour ceux qui aiment la montagne l'été, ceux qui vont dans les Alpes ou dans les Pyrénées. C'est un autre public dans les Pyrénées que dans les Alpes. C'est quoi la différence ?
Alors, la différence, les Pyrénées, c'est une montagne du Sud. C'est une montagne qui est considérée souvent comme plus sauvage que les Alpes.
Ouais.
C'est une montagne qui monte certes moins haut, mais comme on part souvent de plus bas en altitude et que cette montagne est plus sauvage, c'est une montagne qui ne se conquiert pas facilement. Et on va y trouver généralement beaucoup moins de monde. Dès qu'on monte un petit peu en altitude, on est vite loin des foules. Et il faut quitter évidemment les endroits les plus touristiques. Mais voilà, dès qu'on monte un petit peu, on se retrouve très rapidement seul pour profiter du calme, de la tranquillité de la montagne.
Les Pyrénées, c'est la montagne pour ceux qui aiment la montagne, quoi. La vraie.
Oui,
on va pas rentrer dans ce débat, Jean-Claude, je vous en prie.
Moi, je skie à Cotterêts, je peux vous dire que c'est un super domaine pour skier.
Vous allez à Cotterêts vous-même ?
Oui, je skie à Cotterêts.
Eh bien, écoutez, c'est super. C'est un petit domaine comparativement au grand domaine alpin, mais c'est un domaine qui n'a rien à envier aux Alpes, avec des pentes qui peuvent être sévères.
Eh bien, voilà, c'est une skieuse émérite. Elle est en combi toute l'année, la preuve. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous faire un petit coucou, Vincent Gilcot. Je rappelle que vous êtes guide de montagne. Bon anniversaire encore et bonne journée dans ces Pyrénées que vous aimez et dont vous parlez à merveille. À bientôt.
Merci, au revoir.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
On fait une petite pause et on va vous offrir un cadeau absolument génial. Les plus beaux cadeaux de l'été sont à gagner sur RTL jusqu'au 23 juillet, je vous le rappelle. Bonjour Guillaume.
Bonjour Jean-Michel.
Et bienvenue dans RTL vous régale. Jean-Seb et Louis, je vous salue également. Bonjour. Guillaume à Lyon. Comment ça va ce matin? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au boulot? Vous êtes à la maison? Comment ça se passe en ce début d'été?
Je suis en télétravail aujourd'hui.
D'accord, très bien. Administration de vente d'un laboratoire, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement.
Parfait. La bonne idée, c'est d'avoir appelé le 3210, parce que vous savez que vous allez repartir avec un cadeau somptueux dans un instant.
Ah, il y a des beaux cadeaux.
Mais
beaux
énorme. Vous avez entendu, vous jouez pour un chèque de 1000 euros ou un iPhone 12?
Oh waouh. Oh, bah, les deux me feraient très très plaisir.
Elle a raison, Louise. iPhone 12 Pro en plus.
Oui, c'est le gros là, il est très cher.
C'est le gros, exactement. Du coup, vous allez avoir le choix entre Éric Jean-Jean et Laurent Ruquier. Il n'y a aucun rapport. Hein.
Je vais prendre Laurent Ruquier. J'aime beaucoup Laurent.
Rien à voir. Alors, vous jouez avec Laurent, le patron des grosses têtes.
Oui.
Qui va vous offrir ceci.
1000 euros, bravo, vous venez de remporter 1000 euros, de quoi passer un très bel été. Félicitations.
Moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que en télétravail, un mardi matin, comme ça, un 13 juillet, veille de fête nationale, bim, un petit coup de fil. Et 1000 euros.
Et puis 1000 euros. Eh ben merci beaucoup RTL et merci Laurent Ruquier aussi.
Laurent, que vous allez retrouver tout à l'heure dans le best-of des grosses têtes. Et puis rendez-vous du grand jeu RTL de l'été tout à l'heure dans ces mêmes grosses têtes. Vous vous inscrivez dès maintenant en appelant 3210, 50 centimes la minute ou en envoyant RTL par SMS au 74 900, 75 centimes d'euros par SMS. On vous souhaite bonne chance. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ces 1000 euros, Guillaume, mais profitez-en.
Ah, écoutez, je vais profiter des vacances, faire plaisir après l'année qu'on a eue.
Vous avez bien raison.
Mais à qui le dites-vous? Profitez-en bien
beaucoup,
et très bel été à vous.
Fois.
Au revoir.
Merci beaucoup, à bientôt.
Bonne journée.
Au revoir, Guillaume.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tout. moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, ma vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
La bande-son de Tout ce qui brille avec Géraldine Nakache. Chanson sur ma drôle de vie, c'était Véronique Sanson. On vous emmène sur le marché, pas n'importe lequel. C'est un habitué du concours national Votre plus beau marché. On sera à Bagnères de Bigorre dans un instant dans RTL vous régale. Ne bougez pas, on arrive.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et nous allons faire le tour des plus beaux marchés de France dans RTL vous régale tout au long de cet été. On part pour Bagnères de Bigorre. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres marchés, Jean-Sébastien, celui-ci ?
Ah, de différent, pas forcément grand-chose.
Non, mais sa valeur ajoutée, c'est quoi ?
C'est beau.
En plus, c'est... Après, non, c'est loin...
C'est loin, mais c'est très beau.
C'est beau.
Non, c'est un marché qui est absolument magnifique. Ça fait partie des très, très beaux marchés de France. C'est un des plus grands marchés des Hautes-Pyrénées. Ça a lieu le samedi matin. C'est une ambiance extrêmement conviviale, très chaleureuse. Il y a des couleurs, il y a des senteurs, évidemment. Ça, c'est comme sur tous les marchés. Mais il y a aussi... un esprit d'authenticité qui a peut-être plus qu'ailleurs, mais ça c'est dû aux habitants, c'est dû aux Pyrénéens. C'est le rendez-vous incontournable du coin, on vient de très loin. Il y a un marché aux fleurs qui se trouve sur la place du Foirail qui est extrêmement intéressant. Vous pouvez acheter également vos plants de légumes, vous pouvez acheter vos plants de fleurs, il y a des horticulteurs qui viennent. Vous avez toute une section de producteurs engagés dans le bio. Et puis, autour des halles de Bagnères, vous avez les vieux paysans qui vendent encore les productions de la semaine, qui viennent avec leur petite table, leur chaise. Vous avez des œufs, vous avez des carottes d'Astée, vous avez les producteurs qui viennent vendre leur production d'oignons de Trébons. Quand c'est la saison, les ramasseurs de champignons, ils viennent, ils vous vendent leurs cèpes, ils vous vendent les girolles, ils vous vendent les morilles. C'est un vrai bonheur, tout fourmi, les étals abondent de produits, les producteurs locaux également sont là pour tout ce qui est traditionnel, la viande, les charcuteries, les fromages, vous avez des poissons, et puis ça SM un peu partout dans les rues piétonnes et dans les allées de Coustous où vous avez tout ça, vous avez les marchés de vêtements, vous avez les chalands qui viennent avec leurs bibelots, avec des batteries de cuisine, vous avez des démonstrateurs qui font leurs numéros. Enfin, c'est vraiment...
C'est un des trucs préférés de Louise dans la vie. C'est la démonstration d'articles sur les marchés.
Ah ben,
c'est une de ses passions.
Ah, mais oui. Ça, je vais vous dire, je l'ai bien vu avec le coup du savon et de la cuillère machin, parce que ça, c'est un grand truc des bons arnaqueurs,
des
qui sont sur les marchés, vous savez, lavez-vous les mains avec le savon magique, et vous allez voir, vos vêtements seront tout propres, mais ils auront des trous.
Et l'animation de foire également, elle adore. Et vous ferez une démonstration d'ailleurs dans cette émission,
si
un de ces jours.
Ma préférée, c'est la foire à l'andouille.
Et puis,
je vous le dis.
Et puis, on fait démonstrateur au BHV également le week-end.
Bien sûr.
au troisième étage au rayon casserole.
On peut vous parler du marché de Tarbes aussi, vite fait.
Si vous voulez. Non, je n'ai pas fini sur le marché de Bagnères.
Ah, d'accord, allez-y.
Parce que vous avez aussi, vous savez, tout, ce qui est le bonheur, on en parlera tout à l'heure, c'est le porc noir de Bigorre. Et du coup, il y a des pâtés. Il y a des saucissons, il y a tout ce qui fait tout ce qui est fait à partir de ce cochon. Vous avez aussi des producteurs de fromage de brebis et de vaches. Ça fait partie des immenses. Enfin moi c'est vraiment un des marchés auxquels je suis le plus attaché. Bagnères de Bigorre.
Vous pouvez me refaire porc noir de Bigorre.
Le porc noir de Bigorre.
Voilà, merci beaucoup. Je vais cru entendre un truc.
Bon, voilà.
Très vite, je vais accueillir Angelo. Il est à
Bigorre. Pardon. Qu'est-ce que j'ai pu dire?
Non rien.
Non.
Angelo est à Auteuil au Touillet. C'est dans l'heure. Angelo, bonjour.
Bonjour.
Et
bonjour,
bienvenue Angelo. Dans RTL.
Je suis ravi d'être avec vous.
Eh ben, c'est un plaisir partagé, Angelo, sachez-le. Parce que c'est vous qui allez nous permettre de jouer au défi frigo entre Jean-Sébastien et Louise dans quelques instants. Ils vont avoir 3 minutes le temps des infos de oui. midi pour imaginer des recettes. Mais alors surtout, qu'allez-vous nous proposer?
Alors, j'ai plein de choses dans mon frigo, mais j'ai du filet de lieu.
D'accord.
Très
ouais,
bien.
C'est bien ça. Que vous faites comment d'habitude?
Bah d'habitude en papillote.
D'accord.
Ah ça c'est ok.
Là vous attendez deux recettes plus originales.
Bah oui, pour que ça change un peu quoi.
C'est, sympa, c'est ça, histoire de nous éviter le lieu commun. Vous écoutez RTL.
Grands... Tout va bien. Chefs,
voilà, profite. Il est midi. Les infos vous sont présentées par Stéphane Geneste.
Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre rendez-vous pour une première injection de vaccin contre le Covid-19. Rien que sur le site Doctolib depuis hier soir, près d'1 million de personnes ont bloqué une date pour se faire vacciner. C'est un record. Et ce matin, les connexions sur la plateforme, eh bien, elles continuent. Un résultat qui est évidemment la conséquence de la pression mise par Emmanuel Macron hier soir sur les non-vaccinés pour éviter une quatrième vague. Pas de vaccination obligatoire, hein, mais le pass sanitaire va devenir le Saint Graal pour pouvoir aller au cinéma ou au musée par exemple à partir de la semaine prochaine. En août, il deviendra presque indispensable partout, au restaurant, dans les bars, pour prendre le TGV ou l'avion par exemple. Par contre, pour les soignants et les non-soignants qui travaillent dans les établissements de santé qui ne veulent pas se faire vacciner, eh bien là ça se complique. Ils ont jusqu'à la mi-septembre pour le faire et si aucune piqûre n'a été faite, le ministre de la Santé est clair, à partir du 15 septembre il y aura des sanctions, leur contrat de travail sera suspendu, le temps pour eux de remplir leurs obligations vaccinale de cette actualité. On y reviendra évidemment dans RTL Midi et puis vous pourrez en parler surtout dans Les Auditeurs ont la parole. Vous avez rendez-vous avec Christelle Rebière à partir de midi et demi. Un seul numéro. On attend vos appels. Hein, le 3210, le 3210. Dans le reste de l'actualité, les députés et les sénateurs sont parvenus cette nuit à un accord sur le projet de loi climat et résilience. 9 heures de négociations qui ouvrent la voie à une adoption définitive du texte dès cet été. Et si Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique affirme que cette loi fera entrer l'écologie dans nos vies. Les ONG environnementales et les écologistes dénoncent un manque d'ambition. Les coureurs du Tour de France de nouveau à l'assaut des Pyrénées. Aujourd'hui, 16e étape de 169 km entre Pas-de-la-Case en Andorre et Saint-Gaudens. Le Slovène Tadej Pogacar partira avec le maillot jaune. Le départ sera donné à 13h30. Et puis un mot de rugby puisque les joueurs du 15 de France continuent leur tournée australienne. Ils rencontrent justement l'Australie. Le match vient de commencer. Objectif pour les hommes de Fabien Galthié, signer un bel exploit face aux Wallabies et prendre leur revanche. La semaine dernière, ils avaient perdu de justesse 21-23. Allez, un petit coup d'œil à vos prévisions météo et attention, 3 départements de l'est du pays sont toujours en vigilance orange. Pluie, inondation sont concernés, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le territoire de Belfort. Pour le reste, cet après-midi, bien une bonne partie de l'Hexagone sera encore sous les nuages. Tout le monde aura le droit à sa petite dose de pluie. Quelques éclaircies tout de même sur la pointe bretonne et le Cotentin et puis il y aura toujours ce magnifique soleil sur la Corse et le pourtour méditerranéen. Du côté des températures, prévoyez 14 degrés à Aurillac, 17 à Metz, 18 à Cherbourg, 20 à Paris et Montélimar, 25 à Marseille et puis la maximale sera pour Nice avec 27 degrés. Les courses, eh bien, c'est à Deauville aujourd'hui. Jordan Philippi vous conseille de jouer le 2, le 10, le 9, l'As, le 7, le 12, le 4 et puis la dernière minute de Jordan Philippi, c'est le 10. Acclame, il est midi et 3 minutes et on vous acclame, Jean-Michel Zaccaret et toute votre équipe.
Oui, on fait un point sur la course parce qu'à 11h, Stéphane Geneste était en écharpe et
là,
en pull.
Justement.
À midi, il tombe l'écharpe, il est juste en pull. Les Français se demandent dans quelle tenue vous allez présenter
c'est
les infos de 20h.
C'est ça, ouais.
Soyez attentifs et restez sur RTL. À tout de suite.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Angelo est à Auteuil, au Touillet dans l'Eure, et il nous propose du filet de lieu. C'est l'objet du défi frigo de ce midi, les amis. Angelo ?
Oui ?
On va démarrer avec qui ? C'est vous qui choisissez, Louise, Jean-Sébastien ?
Oh, t'es galant, Louise !
Eh ben voilà !
C'est gentil, Angelo.
90 secondes, pas une de plus, pour nous vendre du lieu de manière originale. Voici la première recette.
Bon alors Angelo, vous faites les choses simples, mais les choses simples sont les meilleures. Donc aujourd'hui, je vous propose une brandade de lieu à la patate douce. Vous allez pocher vos filets de lieu pendant 3 minutes dans de l'eau salée frémissante. Vous retirez votre lieu et vous l'émiettez. Pelez vos patates douces et coupez-les en morceaux. Les faites cuire dans un grand volume d'eau 10 minutes. Vous mixez vos patates douces, vous ajoutez de la crème et de l'huile d'olive. Intervient la petite mise en scène sympathique. Vous allez prendre des petites verrines et vous allez alterner les couches de purée et de poisson, terminer par une dernière couche de poisson et ajouter un petit filet d'huile d'olive, sel et poivre. Mais Angelo, si vous êtes comme moi les verrines, ça me tend. J'aime pas ça. Donc vous pouvez acheter un petit cercle en inox, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin, et vous pouvez cercler en mettant vos couches disposées les unes sur les autres.
Top chrono, c'est terminé ?
Absolument.
Remarquable. Une minute, montre en main. C'était très joli pour cette brandade de lieu à la patate douce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Angelo.
Ah ben, j'en pense que c'est super, oui.
Ah, merci.
Ça mérite une explication. Quand vous dites « les verrines, ça me tend ».
Oui. Il y a beaucoup de choses comme ça qui me tendent.
La verrine vous agace.
Vous voyez ça, le « i » ».
Oui.
La lettre « i ».
La lettre « i ».
Moi, ça me tend comme un « i ».
D'accord. Ou si on vous sert un flan, par exemple, en dessert. Louise a comme ça quelques mots interdits dans son lexique. Et ça a tendance à la tendre vraiment. Ne bougez pas, Angelo, car face à elle, il y a cet homme.
Angelo, on va faire une des recettes les plus traditionnelles de la cuisine française en accommodant ce lieu avec une sauce à la grenobloise. Parce que c'est absolument magique. Alors d'abord, vous allez faire quelques croûtons. Vous prenez des cubes de pain rassis que vous frottez un petit peu à l'ail, vous les faites dorer comme ça à l'huile d'olive, il n'y a rien de plus simple. Vous allez prendre des citrons, deux citrons, vous allez sur le premier récupérer les suprêmes du citron, c'est-à-dire les tranches, vous allez râper le zeste juste avant, et puis vous allez faire fondre 100 grammes de beurre pour qu'il soit juste un peu noisette. Vous ajoutez les suprêmes de citron, le zeste, les capres, le jus de citron de l'autre citron, vous salez, vous poivrez et puis vous réservez ça. Pendant ce temps, juste avant, vous aurez fait chauffer votre four à 150 degrés, vous aurez salé le lieu du côté chair, vous le poêlez dans un mélange beurre-huile d'olive pendant 3 minutes et vous le mettez au four pendant 5 minutes. À partir de là, vous sortez votre lieu, vous nappez le lieu avec votre sauce à la grenobloise, avec quelques croûtons, un petit peu d'herbe fraîche dessus, estragon, persil haché, et puis des épinards juste poêlés, quelques pommes de terre en robe des champs. Vous avez un plat qui est gourmand, qui est fabuleux, qui est ultra traditionnel, qui peut se faire avec plein de poissons, par exemple de la raie, enfin n'importe quel poisson blanc, ça fonctionne.
Hop, 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 1 minute 30, pile. Joli, c'est timé ça, c'est remarquable, c'est scientifique.
Oui, c'est travaillé.
Mais bien sûr. J'ai quoi ? J'ai à ma gauche une brandade de lieu à la patate douce. À ma droite, un lieu à la grenobloise.
C'est ça.
On va le dire comme ça.
On peut le dire comme ça.
Et au milieu, Angelo, qui va devoir choisir. Quel filet de lieu il va choisir ? Voilà, dites-nous.
Eh ben, je suis désolé pour Louise. Parce que moi aussi, ça me tend les verrines.
Oui, vous avez le cercle, vous avez le cercle.
Oui. Eh ben, du coup, je prends le lieu à la grenobloise.
Et c'est une victoire de Jean-Sébastien Petit-Demange.
Merci, Angelo.
C'est beau. Bah, il faut bien que ça arrive.
T'as l'air super bon. Et les verrines aussi, ça va être bon. Je vais essayer les deux de toute façon. Hein.
Ah, j'espère bien.
Vous choisissez celle-là, pourquoi ? Racontez-nous en deux mots.
Eh ben, je sais pas, je trouve que c'est gourmand.
C'est vrai. C'est vraiment, c'est les croutons que j'aime bien. Non
ah bah oui, frotter à l'ail.
Ça est frotté à l'ail.
Mais gourmand, c'est... oui.
Faut avouer que la recette de Jean-Seb aujourd'hui, elle avait de la gueule. Non, oui. il faut le dire.
Je vous écoute tous les jours, mais les recettes, tout est bon. Hein.
Est-ce que vous en faites de temps en temps ? Est-ce que vous en essayez des recettes qu'on vous propose dans le défi frigo ?
Oui.
Ça marche?
J'essaye un peu tout, mais bon, en amateur, évidemment.
Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on essaye, tant que c'est possible, évidemment, de vous proposer des recettes qui ne sont pas les trucs de grand chef et qui sont accessibles à tout le monde, au plus grand nombre. Voilà. Vous savez que nous allons vous offrir un guide du routard des éditions Hachette.
Oh, c'est gentil.
Voilà. Nous allons vous offrir une montre RTL.
Okay.
Et je place le petit prénom d'Angelo en ce moment même dans la cocotte qui nous permettra de procéder au tirage au sort vendredi pour vous permettre, si vous avez de la chance, de gagner cette semaine un week-end de deux nuits à l'abbaye de Talloire, un sublime hôtel 4 étoiles au bord du lac d'Annecy. C'est le lac le plus pur d'Europe, le lac d'Annecy. Ah ouais. Sous les terrasses ombragées du restaurant gastronomique de l'abbaye de Talloire, Christophe Le Digole, le chef, compose pour vous une balade culinaire au goût, aux couleurs et aux odeurs des produits de cette région du lac d'Annecy qu'on adore.
Est-ce qu'il y a des verrines?
Est-ce que vous serez tendu lors de ce week-end? Je n'en sais rien. Et vous partirez avec la personne de votre choix. On s'en reparle peut-être vendredi, si vous avez un tout petit peu de chance. Merci d'être avec nous en tout cas et bel été à vous, Angelo.
Merci Angelo.
Merci beaucoup.
Je rappelle que pour vous inscrire au défi frigo, vous envoyez tout de suite le mot régal par SMS au 64 900. C'est Christina qui est au standard qui vous attend. Elle fait le boulot pour nous et dans un instant on vous explique ce qu'il faut absolument impérativement rapporter des Hautes-Pyrénées. Wonder. Voici Imanic. Here I go out to see again. The sunshine fills my hair and dreams hang in the air. Calls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There is magic everywhere. Look at me stand. Your hair, they seem to hate you because you're there, and I need a friend, oh I need a friend to make me happy, not stand there on my own. Look at me. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. I'm not so alone. Look at me here, here on my own again, straight in the sunshine. Wonderful Life, vous aurez reconnu le classique de Black, c'est le nouveau single d'Imani, ce sera sur Voodoo Cello, le nouvel album d'Imani, sur lequel elle va réinterpréter 12 titres dans ses propres arrangements, juste accompagné par 8 violoncelles. On attend cet album avec beaucoup d'impatience. Les petits conseils d'amis d'RTL vous régale, c'est dans un instant, à tout de suite sur RTL.
Restez bien avec nous, RTL vous régale, revient tout de suite. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Et avec Louise et Jean-Sébastien, on vous livre nos petits conseils tout l'été, région par région, que rapporter chez vous à la maison si vous êtes en villégiature en France. Et si vous êtes de passage dans les Hautes-Pyrénées, pourquoi pas cette semaine?
Oui.
Jean-Sébastien, oui. On doit impérativement rapporter le berlingot de Cotteret.
Ben bien sûr. L'histoire liée au terme de Cotteret, parce que l'eau soufrée était employé pour soigner la gorge. Au début du 19e, il est utilisé comme médicament, ce berlingot de Cotteret, parce qu'il a gardé, on atténue un peu le goût soufré de l'eau avec du sucre. Tout ça optimise, selon les médecins de l'époque, les bienfaits de la cure. En attendant, toutes les stations thermales des Pyrénées se sont mises à faire leur berlingot. Donc on en trouve dans toutes les villes. Il y a le berlingot de Cotteret, qui est la plus grosse ville thermale. Et donc du coup, ce mélange d'eau, de sucre, de glucose cuit à 150 degrés fait la réputation de la ville. Et alors ce qui est très amusant, c'est que ça donne une... Puisque l'eau est un peu soufrée, quand on fabrique des berlingots, il y a une odeur autour des confiseries qui est très très agréable dans la ville.
Voilà, parlons d'odeur. Je ne peux pas concevoir qu'on ne rapporte pas un peu de fromage. Et ça tombe bien parce qu'il y en a.
Oui, la tome de Barousse. C'est un fromage fermier au lait cru de vache ou de brebis. Ou un fromage mixte avec les deux. C'est une pâte pressée non cuite à croûte lavée. C'est une tome qui fait aux environs 2 kilos.
Une tome de
2 kilos. Et de forme cylindrique et qui est fabriquée véritablement encore de façon ancestrale, entièrement à la main. La pâte est de couleur ivoire. C'est un mois et demi d'affinage. C'est lavé, c'est essuyé, c'est retourné tous les jours. Il y a une odeur qui est forte. Il y a un goût qui rappelle les senteurs montagnardes. Et il vaut mieux acheter de la tome d'été, comme à chaque fois.
Parce que les vaches ne mangent pas la même chose.
Eh ben non, parce que les vaches paissent dans les estives, alors que l'hiver, elles broutent de l'herbe et du fourrage sec. Donc ça n'a pas le même goût. Et les tomes d'été sont beaucoup plus goûteuses et beaucoup plus agréables.
Il y a ce truc aussi qui goûte le frangipane.
Ah, le gâteau au pignon. Ça, c'est un truc qui est de plus en plus rare hein, dans les Hautes-Pyrénées, parce que c'est une tartelette, c'est une base de pâte sucrée qu'on garde de frangipane auquel on a ajouté des pignons. Les pignons, c'est le fruit de la pomme de pin. C'est un gâteau qu'on trouve dans quelques trop rares pâtisseries des Hautes-Pyrénées pour la bonne et simple raison qu'il est de plus en plus compliqué de trouver des pignons français parce que la Chine a inondé de ses pignons le marché mondial et du coup, on trouve pratiquement plus de pignons français. C'est très très rare.
Ils sont moins chers les pignons chinois ?
Alors ils sont moins chers.
C'est un coût quand même les pignons.
Ils sont beaucoup moins chers, ils sont beaucoup moins bons
surtout.
Ils ne sentent rien et en plus, il y a même des maladies de temps en temps dans ces pignons qui vous rend aguesique pendant quelques mois.
Très bien, ben tremblé.
Voilà. Non, mais c'est, je peux vous dire, j'ai une copine au Canada qui s'est cognée ça, c'est absolument affreux.
Non, mais sérieusement, là, donc faites gaffe quand vous achetez des pignons, regardez la provenance, l'origine du fruit.
C'est moi personnellement, les pignons chinois, je les achète pas.
Il faut pas.
Voilà.
Ah oui. Produit français. Et quand il n'y a pas, on n'en mange pas.
Et ben voilà, on mange autre chose. Il y a du vin dans le coin aussi.
Bah c'est un terroir. On est sur le terroir de Madiran, sur le terroir du Pacherinck. Le Madiran, c'est ce vin rouge issu d'un cépage qui est le Tanat. C'est le cépage emblématique de l'appellation. Le Tanat qui vient de la langue d'oc, ça veut dire que c'est un vin tannique. C'est une explication qui est liée à sa richesse en tanin qui donne cette couleur très violacée, très sombre. Cépage capricieux qui est extrêmement difficile à conduire dans la vigne est extrêmement compliqué à vinifier. C'est pas pour rien que sur les 3500 hectares de tanate qui sont produits, qui sont cultivés dans le monde, il y a 1400 hectares qui sont dans le vignoble de Madiran. Le reste du tanate se trouve dans le vignoble uruguayen essentiellement. Et c'est vraiment, ça fait partie de ces vins. Alain Brumont, par exemple, est une star dans le vignoble du Madiran. Et c'est des vrais vins de terroir, très travaillés, très réputés. Et en blanc, le Madiran s'appelle le Pachereng Vigby. C'est fait avec du petit, du gros Mansin, avec du petit Courbu. Ça, c'est des cépages qu'on retrouve dans le Jurançon. Et on fait des vendanges tardives qui sont sublimes. On fait quelques vins secs de Pachereng qui pour moi sont des merveilles, mais c'est voilà, ça fait partie des très beaux vignobles les gars.
Louise, vous serez d'accord pour dire comme moi que dans le dressing d'une femme, il faut toujours une petite robe noire.
C'est vrai. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement.
Eh bien, c'est pareil. Dans le garde-manger d'RTL vous régale, sauf que là, elle a des oreilles horizontales et c'est un port noir de Bigorre.
Exactement.
Robe noire magnifique.
Mais oui, la particularité, c'est qu'il vit en liberté, il vit à l'air, sur son terroir d'origine. Donc la Bigorre, on en a déjà parlé. Et il me semble que nous avons Jean-Michel Coustala au téléphone.
Ah oui, c'est le couturier. Bonjour Jean-Michel, bienvenue sur Bonjour. RTL.
Bonjour. Merci, bonjour à tous.
La maison Coustala, qui élève depuis 17 ans ce port noir de Bigorre. Alors, quelle est la particularité? Parce qu'on a été très rapide sur la description. On pourrait dire bien des choses, en somme, sur ce port noir de Bigorre.
Oui, mais l'origine, c'est l'animal. L'animal, le port gascon, qui a toujours été présent sur le piémont pyrénéen et qui, parce que c'est un port rustique, qui était un port gras, qui a été délaissé au XXe siècle au point de faillir disparaître.
Mais justement, pourquoi est-ce qu'il a failli disparaître dans les années 80?
Ben parce qu'il ne correspondait plus aux critères du marché. Voilà. On a voulu un animal plus maigre, plus productif, et que notre cochon, si on l'enferme, on fait une savonnette. Quoi. Il ne fait plus que du gras. Et donc, on a un port marcheur et son salut, c'est la marche et aller lui faire chercher son alimentation dans les milieux naturels.
Mais c'est grâce à des gens comme vous, justement, qu'on a sauvé cette race, cette espèce?
Oui, c'est un collectif. Ça fait 40 ans, cette année, en 2021, qu'on a mis en place la sauvegarde de la race. On est reparti de 34 truies et de 2 verras. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 1000 truies et avec 10 000 porcs produits. Et donc, c'est un collectif, une association d'éleveurs et d'artisans transformateurs qui ont bâti la notoriété du noir de Bigorre jusqu'à obtenir 2 appellations d'origine protégée.
Mais c'est pas pour rien que vous les avez obtenues, parce qu'il faut expliquer comment vous travaillez et le soin que vous apportez à l'élevage de ces porcs noirs de Bigorre. Ils mangent de l'herbe, c'est riche en antioxydants, ça protège le gras au moment du séchage du jambon. Et alors vous leur donnez pas de maïs, hein. Il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de soja chez vous.
Disons qu'on a compris dès l'origine que si on voulait exister dans le monde du jambon, c'est en se différenciant de nos cousins espagnols, et notamment des grands jambons espagnols produits avec une alimentation à base de glands. Mmh. Et donc, on avait besoin de gras qui se distingue par rapport au rancio espagnol, vous savez, ce gras qui fait saliver et qui est caractéristique de l'Espagne. Et ça vient de l'oxydation des acides linoléiques, qui sont les gras, des acides gras qui font des gras jaunes. Et donc nous, on a voulu éviter ça, et pour ça on a évité le maïs et on utilise donc beaucoup d'herbes comme vous le disiez, et puis des céréales à la paille, essentiellement du triticale, de l'orge ou du blé, qui va faire des gras très blancs, qui vont s'affiner, mais qui ne vont pas s'oxyder comme les acides linoléiques.
Voilà. Et donc ça donne un produit phare, c'est ce jambon, c'est chez 20 mois, 24 mois même plus souvent, qui est un produit très élégant. Absolument équilibré, avec cette balance des gras dont vous parliez, c'est important.
Oui, la notoriété de notre jambon est souvent cataloguée de jambon très féminin, avec une élégance et un équilibre que l'on perd avec la concentration des grands jambons espagnols, et même du nôtre si on le laisse vieillir plus de 36 ou 48 mois.
Ben
c'est
voilà.
Pour ça qu'on dit que L'AOP, c'est 20 mois minimum, mais qu'aujourd'hui, notre équilibre se trouve autour de 24 mois.
Je trouve ça très joli, moi, un jambon très féminin. Ouais. C'est sympa, je trouve, comme idée. Et j'en reviens à la petite robe noire, du coup. Voilà,
moi, j'avais raison. Hein, ce jambon, c'est irrésistible.
Merci d'être venu nous voir dans RTL vous régale, Jean-Michel Coustala. C'est la maison Coustala. Ça fait 17 ans qu'ils font du porc noir de Bigorre. Autant vous dire, et vous l'avez compris, qu'ils savent de quoi ils parlent. Merci Jean-Michel, bel été à vous.
Merci. Au revoir.
Merci, bonne journée.
À bientôt, on fait un petit pas de côté dans un instant avec Jean-Sébastien pour terminer RTL vous régale. Alors, Tarbes, c'est la préfecture des Hautes-Pyrénées. Oui. On va s'en éloigner un peu.
On va passer par Tarbes et puis on va aller dire bonjour à Bernadette.
Chemin faisant.
Voilà.
A tout de suite sur RTL.
RTL vous régale. 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
On va s'écarter des chemins classiques pour emprunter peut-être quelques chemins de traverse.
Ah, pas du tout, non.
Non, non, pas du tout. Non, mais
ultra classique.
Non, mais on fait un petit pas de côté par rapport à l'itinéraire.
Tarbes, c'est la préfecture des Hautes-Pyrénées. C'est la capitale historique de la Bigorre. C'est aussi une ville de garnison qui accueille le 35e régiment d'infanterie parachutiste, dont vous avez fait. Vous n'avez pas fait votre service militaire.
J'en suis l'emblème.
C'est ça, oui. C'est une ville très animée, Tarbes. Il faut, avec la mascotte, il faut notamment aller visiter le haras national et la maison du cheval avec les anciennes écuries, la sellerie, la forge. C'est un haras de 8 hectares en plein cœur de la ville. C'est absolument étonnant. Ça a été créé en 1806 sous Napoléon Ier. Et puis, en allant faire un petit tour du côté des grottes de Bétarame, qui sont superbes avec des salles immenses, des concrétions spectaculaires et un lac souterrain plus qu'étonnant, vous allez, au fur et à mesure, arriver à l'endroit où tout le monde va dans les Hautes-Pyrénées. Parce qu'il y a une star absolue dans le milieu du tourisme. Il y a le leader Maximo. Vous voyez, c'est Lourdes. Lourdes, c'est là où la petite Bernadette, à 14 ans, le 11 février 1858, elle est avec sa sœur, avec une amie. Elles sont en train de ramasser du bois au lieu-dit Massabielle. Et là, elle voit une dame au-dessus de la grotte. Les visions vont se répéter jusqu'au 16 juillet, 17 fois. Le 26 mars, la fameuse dame lui révèle qu'elle est l'Immaculée Conception. À partir de là, vous imaginez bien que l'affaire fait grand bruit. Après la guerre de 1870, le pèlerinage s'organise. Lourdes change totalement de visage. Les habitants se transforment naturellement en aubergistes, puis en commerçants spécialisés dans les médailles, les colifichets et autres objets souvenirs de tout style et aujourd'hui de plus ou moins bon goût. Toujours est-il que Lourdes accueille en temps normal 4 millions de visiteurs par an. Pour une ville de 13 500 habitants, vous avez la deuxième capacité hôtelière de France, après Paris et juste devant Nice. 200 établissements d'hébergement, 200 magasins de souvenirs, un nombre d'emplois absolument considérable pour une commune de cette taille. La grotte, la basilique Notre-Dame du Rosaire, aussi impressionnante que l'esplanade des processions qui peut contenir 60 000 personnes, le chœur, avec ses 2000 mètres carrés de mosaïques, la crypte, la basilique souterraine, les pèlerins ne seront toujours pas de retour en 2021. Et en lisant hein, Le saviez-vous du guide du routard sur les Pyrénées, on apprend qu'il y a de moins en moins de miracles à Lourdes. 8 reconnus seulement entre 1976 et 2018. En 1858, l'Église en avait reconnu 7. 20 en 1908. Sauf que les critères pour guérison miraculeuse n'ont pas bougé. Et ils disent que nulle médication ne doit avoir été administrée. Du coup, c'est pas sûr que le nombre de miracles remonte prochainement. Parce que de toute manière, reconnaissons-le, en attendant, le vaccin est toujours plus sûr que d'attendre un miracle.
Vous voyez venir, évidemment. 4 millions de visiteurs à Lourdes.
C'est considérable. Je peux vous dire que c'est là pour le coup, la pandémie à Lourdes est une tragédie économique.
J'imagine.
À nul autre pareil.
Parlons de miracle, il va s'en produire un.
Oui.
Car nous serons de retour demain à 11h.
Absolument.
Ah. Et oui. Et ça, tenez-vous le pour nous.
Mais on sera là.
Demain, on prend la direction des villages perchés de la Côte d'Azur. Ça va être un vrai bonheur aussi.
Au-dessus d'Antibes, j'en ai
pas. On vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée.
Nous étions dans les Hautes-Pyrénées. Vous écoutez RTL et les midi.